Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ah, ça, je déteste, mais quelle horreur! Mais pour tout, pour les sous-vêtements, pour tout, j'y vais, je prends, je veux y aller, je prends 2 heures, 3 heures s'il le faut. C'est un supplice. La cabine d'essayage, pour moi, est un supplice.
L'épisode que vous allez entendre est réalisé en partenariat avec DIM. Cette marque iconique, qui vient de fêter ses 60 ans, vous offre à cette occasion 20% de réduction sur l'ensemble de son e-shop et dans toutes ses boutiques, grâce au code chiffon.
J'avais un parrain qui pour moi était l'homme le plus chic. Je me suis dit, je veux habiller comme ça.
Je me suis battue depuis 2 ans pour ces robes, parce que je trouve ça indécent.
Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse.
C'est pas vrai tout ça.
Bonjour, je suis Valérie Trib et je vous invite à parler chiffon. Oui, parlons de fringues, de fripes, de frusques, de nippes, de sapes. J'ai créé ce podcast pour analyser votre relation avec votre garde-robe, pour avoir votre vision sur la mode et votre lien aux vêtements. Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon,
sape,
chiffon, c'est parti. Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois celle qui a marqué et continue de marquer le paysage audiovisuel français. Elle a été une des premières journalistes à animer des entretiens intimes avec son émission Bas les masques. Mireille Dumas est journaliste, réalisatrice et productrice. Et c'est un immense honneur pour moi de la recevoir au micro de Chiffon. Bonjour Mireille.
Bonjour.
Alors, il m'a été difficile de faire un résumé sur votre carrière, de votre carrière, pardon, 150 émissions de Bas les masques, c'est ça?
Oui, je sais pas. Plus de
1500 invités.
Oui, je n'ai pas compté.
11 ans de vie privée, vie publique, oui. Puis la vie à l'endroit,
oui.
De nombreux documentaires. Mais ce qui domine dans ce parcours, c'est l'humain et les problématiques de société. Pourquoi cet angle?
Écoutez, je crois que j'ai été toujours curieuse de l'autre. Depuis mon enfance, je crois, je me suis intéressée aux autres. Pourquoi cet angle? Parce qu'il n'y a rien de mieux que finalement d'aller vers les autres. On n'est rien sans les autres, sans aussi le regard de l'autre. Premier regard bienveillant qu'on ait sur nous, c'est celui quand même de nos parents. Et puis une vision évidemment de l'être humain dans la société. Ce qui m'intéresse, au-delà justement de l'histoire personnelle, c'est la place que l'on a dans la société, la place que l'on a ou que l'on n'a pas justement dans la société. Donc c'est cette place-là qui m'intéressait, donc parler des problèmes de société évidemment.
Ces émissions, c'est dans les années 90?
Oui, donc, j'ai même ça, commencé dans les années 80,
oui,
c'était le documentaire.
Et ensuite, j'ai commencé par faire du théâtre.
Du théâtre, ah oui, ça, bien sûr. Mais le théâtre, c'était le théâtre expérimental de Peter Brook. C'était vraiment pour essayer, justement, déjà, j'étais très jeune et j'avais envie de comprendre comment fonctionnait le cerveau humain, l'être humain. Et il n'y avait rien de mieux que ces cours de théâtre, justement.
Là, je fais une petite parenthèse, mais en revenant dans le taxi, j'écoutais une émission sur le narcissisme qui est reine dans notre société. Est-ce que vous trouvez que c'est le cas en ce moment? Que les gens sont de plus en plus narcissiques, égoïstes, autocentrés?
Écoutez, c'est une question compliquée parce que je ne suis pas sûre qu'il le soit plus qu'autrefois, même peut-être moins. En tout cas, moi, la jeune génération, je trouve que la jeune génération est très, très portée vers les autres et vers l'humanitaire. Donc, je vois beaucoup de jeunes s'engager. Maintenant, il est vrai que, mais ça fait quand même plusieurs années et de nombreuses années que ça existe. Il y a eu tout ce culte qui existe évidemment encore aujourd'hui de la jeunesse, du beau. On sait bien que les femmes, après un certain âge, leurs rides... Je ne mettrai même pas...
mais on trouve leur ride vilaine, alors que pour les hommes, elles sont absolument toujours de plus en plus sublimes. Donc, évidemment qu'il y a une injustice, mais le narcissisme, je ne suis pas sûre qu'il soit plus présent aujourd'hui qu'hier.
En même temps, les femmes ont aussi le plafond de verre, oui. Au niveau...
Oui, tout à fait, tout à fait.
Vous avez toujours rêvé de devenir journaliste ?
Alors attendez, quel était mon premier rêve ? Au départ, je voulais être comme ma mère, institutrice évidemment, comme toutes les petites filles. Et puis après, je ne savais pas très bien dans le fond. Ça s'est mis en place tout seul. J'ai commencé à travailler justement pour les ateliers de Peter Brook dans les hôpitaux psychiatriques. Et on travaillait, en fait, c'était un travail de théâtre expérimental. On essayait de communiquer avec les malades mentaux au-delà des mots, par les gestuels et tout un langage comme ça qui était assez extraordinaire, qu'il avait lui-même construit. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que j'avais vraiment envie de raconter ce qui se passait, d'être témoin de ce que je voyais. Et j'ai écrit mes premiers papiers pour Le Monde, pour Pierre Vianson-Ponté, voilà, dans les années, avant les années 80.
Il y a peu de temps, en fait.
Il y a très, très peu de temps. Et sinon, cette envie, je crois qu'elle est quand même, je ne mettais pas de mots là-dessus, mais comme j'ai grandi dans un univers clos, dans la cour de l'école où ma mère enseignait, et c'était un petit village, et devant cette cour d'école, il y avait une grille et le grand mur de la ferme. Donc l'univers était fermé. Même si on galopait dans la campagne, j'avais l'impression que cet univers était fermé. Et très tôt, très vite, j'avais envie de parcourir le monde et d'aller voir comment les autres vivaient. Et en fait, assez vite, naturellement, c'était l'idée de tendre le micro aux autres, de leur parler, d'écouter leur vie, avec ce sentiment, en grandissant évidemment, qu'une vie c'était très court, dans le fond, on avait pas mal d'expériences. Moi, j'aime bien prendre des risques, vivre des choses, mais pour autant, bon, la vie, on a une seule vie. Et donc, j'avais envie d'embrasser toutes celles des autres et d'écouter celles des autres.
Alors, dans Chiffon, on parle de fringues, c'est plus léger, mais en même temps, on en a besoin. Alors, quand je pense à Mireille Dumas, je pense au blouson de cuir. Est-ce toujours d'actu cet amour pour le cuir ?
De moins en moins, mais quand même, j'ai toujours ma petite veste de cuir. Je ne porterai plus de pantalon de cuir. D'ailleurs, je ne suis pas sûre, je n'en ai jamais porté.
C'était les blousons qui m'aimaient.
Je n'aimais pas le pantalon de cuir, en fait. Mais j'aimais beaucoup les vestes de cuir, mais j'en ai toujours. En plus, de temps en temps, je les mets. Des vestes plutôt noires, j'en ai beaucoup de vestes noires en cuir, des peaux absolument magnifiques, d'autres couleurs aussi, quelques-unes d'autres couleurs, une argentée qui était une espèce d'argentée dorée comme une seconde peau. J'ai toujours aimé le cuir, surtout là. Je pense que c'est venu avec la télévision, je ne suis pas sûre. Est-ce que j'en... Non. Vous voyez, je réfléchis en même temps. Pas du tout. J'ai porté du cuir bien avant la télévision, j'aimais beaucoup.
Qu'est-ce que vous aimez dans le cuir ?
Écoutez, c'est comme une... quand j'avais une vingtaine d'années, en fait, je me souviens, je n'ai jamais porté de pantalon, mais des jupes de cuir. Évidemment, des jupes de cuir de toute taille, des mini-jupes, des jupes plus longues, etc. J'adorais... c'est comme une peau qui vous recouvre. J'adore la sensation du cuir qui est très fin, très, très souple. Cette espèce de brillance qui est dans le cuir. C'est quelque chose... Je ne me suis même pas posé la question, ça s'est fait assez naturellement. Et ensuite, je me suis aperçue, en passant à la télévision, évidemment, que c'était très, très joli parce que ça donnait un reflet. Il y a une espèce de brillance qui est très flatteuse, dans le fond, et qui se réverbère très gentiment sur le visage. Mais qui donne... Il y a quelque chose, ça accroche la lumière.
Ça donnait aussi un côté un petit peu rock avec votre coupe au carré.
Oui, c'est sans vraiment y réfléchir, mais c'est vrai que du coup... je me sentais bien avec ces vestes de cuir. D'ailleurs, parce que vous savez, très vite, quand à la télévision, on vous donne une styliste.
Oui, c'est ce que j'ai... Vous avez anticipé ma question.
Et la styliste, enfin, je n'ai rien contre les stylistes, certaines ont été formidables, mais quand même, quand j'y pense, je me suis laissée faire. Elles m'ont affublé, la première en particulier, m'a enlevé mes vestes de cuir pour me donner des vestes, vous savez, très, j'allais dire, très...
Très
épaulées. Bourgeoisées. Enfin, des vestes bien coupées, avec, et puis, alors, des épaules parfois très au carré. J'ai revu certaines émissions des années 90, des épaules de camionneurs. Vous savez, il y avait des, oui. À l'intérieur, des épaulettes.
Mais c'est de nouveau la mode, hein.
Ah oui, c'est, alors vous avez quand même des épaules comme ça. Surtout, je me suis retrouvée face à, j'ai vu dernièrement, j'interviewais des enfants qui étaient minuscules. J'avais les épaules immenses. Mais enfin, bon. Et des vestes très, vous voyez, rose bonbon, fuchsia. Bleu, mais c'est épouvantable quand je revois ça, avec un maquillage. Alors ça aussi, les maquilleuses, moi qui étais très naturelle, qui mettais un rouge à lèvres très foncé, vous voyez, très maquillée et tout, franchement, quand je me vois, j'ai du mal à me reconnaître. Je vais vous raconter une anecdote qui est quand même assez croustillante, c'est qu'au début de Ballet Masque, donc je me suis retrouvée dans un salon...
En 92, je crois.
Oui, c'est 92, je me suis retrouvée dans un salon du livre, donc où j'ai rencontré beaucoup de mes téléspectateurs et tout. Et tout le monde venait me voir en me disant « On adore votre mère !»
Mais non.
Mais bien sûr, je ne comprenais pas au début. Et tout le monde était persuadé que j'étais la fille de Mireille Dumas, parce qu'évidemment, j'étais, vous voyez, naturellement bouclée, sans maquillage, très, très fraîche, quoi. Et avec mes vêtements habituels, cuir, pas cuir, peu importe. Et je n'étais plus cette dame à la télévision, vous voyez, avec le rouge à lèvres trop accentué, trop bien coiffé et trop bien habillée.
Si je vous dis, dis-moi comment tu t'habilles et je te dirai qui tu es. Pour vous, le vêtement, c'est plutôt un marqueur social, reflet de la personnalité ?
Écoutez, je sais qu'on dit ça. Moi, je n'en suis pas du tout, certaine. Je ne pense pas. Pour autant, je pense que ça dit certainement plus de la psychologie de la personne. Je ne suis pas sûre que ça dise de moins en moins, pour moi, ça dit de la classe sociale, parce que je pense que, justement, on s'habille un peu, enfin, moi, je me suis toujours habillée un petit peu comme j'en avais envie. Je suis quelqu'un qui ne suit pas du tout les modes.
Vous m'avez dit, en préparant l'émission, que vous n'aimez vous fichez de la mode.
Vraiment, je n'ai jamais suivi la mode. Je pense que j'ai même cassé les codes à certains moments où il aurait fallu être habillée comme si, et j'étais complètement, je me suis retrouvée dans certaines situations, je me souviens, on me disait, mais quand même, tu aurais pu prendre une robe longue ou je ne sais quoi et tout, je détestais ça.
C'est hyper rebelle, en fait.
Oui, alors donc je ne suis pas sûre qu'en me regardant, on puisse se dire, tiens, voilà. Et je pense à des amis, franchement, qui sont exactement comme moi. Non, je pense que ça dit, en revanche, oui, ça dit du caractère. Je pense que ça ne dit pas forcément... Autrefois, ça disait de la classe sociale, oui. Je pense qu'il y a des années en arrière, ça disait de la classe sociale. Aujourd'hui, ça ne dit plus. Ça ne dit plus pour la simple et bonne raison aussi. C'est qu'autrefois, lorsque vous aviez un jean troué... autrefois, vous voyez, il y a très longtemps, c'était ce qu'on appelait les haillons. C'est-à-dire que c'était les gens pauvres qui avaient des jeans troués et tout. Aujourd'hui, c'est la mode. Aujourd'hui, on déchire tout.
C'est cool.
Vous voyez, le pantalon qui descend et tout. Donc, ça n'a plus rien à voir. Les codes sociaux ont été complètement cassés. En revanche, je vous dis, je pense que sur la personnalité, oui, personnalité rebelle, personnalité, j'en sais rien. Enfin, en tout cas,
vous avez dû en croiser lors de vos interviews sur certaines thématiques des gens qui s'affirmaient au niveau vestimentaire.
Oui, et souvent qui, enfin, je pense justement, ça dit du caractère parce que on voit, enfin, moi je le vois quand quelqu'un arrive, on voit s'il est bien ou non dans ses vêtements.
Et vous le regardez ça?
Je le vois, je le perçois. C'est quelque chose que je perçois. Vous voyez, quelqu'un qui a une femme qui a une robe trop, je ne sais pas, trop voyant, trop de bijoux. Vous voyez, qui est trop, c'est trop. Ça se sent. Les hommes en particulier, moi, je me souviens, je peux pas donner le nom.
Oh, mais dommage.
Non, mais je peux pas le dire. Mais je me souviens, parce que c'était, il y a longtemps, c'était Pascal Brugnaud qui m'avait demandé.
Productrice.
grande productrice de la télévision qui m'avait demandé de préparer une émission. Et à l'époque, je ne faisais pas d'antenne encore. Donc, et c'était un journaliste de la télévision qui devait animer cette émission. C'est une grande émission de société. Je l'avais préparée. Et en la préparant, donc, ce grand journaliste de la télévision qui était sur nos antennes, qui officiait régulièrement.
Le nom est sur le bout de votre langue.
Oui, mais quand même. C'est pas, y a pas péril dans la demeure,
non,
mais
bien
bon,
sûr.
Soyons
bienveillants,
voilà, et polis. Et non, mais c'est simplement qu'il avait sans arrêt, vous savez, le col complètement fermé avec la cravate là qui l'étranglait complètement et tout. Et je lui avais dit, écoute, là, on n'est plus au journal télévisé, justement. Oui. On n'est pas, on est dans un exercice, on est dans un grand 20h30, on parle aux gens, etc. Ce serait bien que tu enlèves la cravate ou au moins que tu la desserres, que tu, enfin, qui se, voilà, qui est un peu d'aisance. Mmh. Impossible, ça a été impossible, impossible. Donc j'ai lutté et je trouvais, et moi ça m'a obsédée pendant tout le temps de l'émission d'ailleurs. je me disais, mais c'est dommage quoi, il est trop serré, il ne se lâche pas. Et ça se, et pour moi, voilà, ça se sent dans, vous voyez, dans l'aisance du corps, dans les questions, je pense à l'antenne.
Quel est votre style au quotidien?
Au quotidien, mon style jean, pantalon, je suis bien, je trouve ça pratique. Mon style, c'est décontracté, c'est, ben là, vous voyez, voilà, c'est petit. Là, c'est par exemple un jean.
Vous décrire.
Oui, là, je porte un jean noir. Des chaussures sont des boots un petit peu, elles sont un petit peu rock effectivement, avec une petite fermeture
éclair, un petit côté rock.
Non,
hein.
les chaussures sont branchées. Fermeture éclair sur le côté extérieur, j'ai trouvé ça très joli, pas à l'intérieur. Je les ai trouvées très très raffinées, voilà. Et puis j'ai un pull noir tout simple. Et alors voilà, ce que j'aime bien, c'est un petit
côté rock aussi.
Peut-être, j'en sais rien, un petit gilet qui est marron avec des qu'est-ce qu'il y a, c'est brodé.
Des sequins. Ce sont des petits sequins.
Voilà, mais...
Des sequins et des boutons dorés. Gilet d'homme, en fait.
En fait, c'est un petit gilet d'homme, ouais, j'aime bien les gilets d'homme. Ouais, j'aime beaucoup. Voilà, c'est au quotidien, mais après, ça peut être un pull, enfin, peu importe. J'aime bien aussi les grands pulls.
À quel âge l'avez-vous trouvé, ce style? Vous êtes à l'aise dans vos baskets depuis quel âge? Ou vous l'avez toujours été avec vos fringues?
Écoutez, je pense que je ne me suis jamais vraiment posé la question, mais... Je crois que je portais beaucoup de robes pendant très longtemps. Je portais des robes quand j'avais 20 ans, des petites jupes, des robes, etc. Est-ce que je portais un petit peu de pantalon? Mais je pense que c'est les années passant, en fait, de plus en plus, j'ai porté des pantalons.
Et le jean s'est démocratisé dans les années 70, après.
Oui, voilà. Ouais. Je pense que c'était à ce moment-là.
Comment étiez-vous, petite fille? Plutôt robe à smoke, garçon manqué?
J'étais petite fille, pas du tout garçon manqué. Je jouais avec des poupées et non pas avec des voitures. Je n'étais pas casse-cou vraiment. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'adorais faire de la bicyclette. Je parcourais avec ma sœur, on parcourait la campagne ça à bicyclette. On faisait des choses absolument incroyables. Je ne suis pas sûre de pouvoir les refaire, mais j'ai épaté quand même des copains et des copines il y a encore quelques années, parce que j'arrivais à monter debout sur la, vous voyez, sur la selle. Enfin, je faisais des trucs quand même. Oui, oui. On était assez doués sur le pour faire les clowns quand même. Oui, oui, sur la bicyclette. Moi j'habitais un petit village, donc il y avait pas grand-chose, si ce n'est la marche à pied, la bicyclette et la piscine municipale où j'ai appris à nager. J'adore nager. Ça, vous me le...
S'il y a un sport... On ne peut pas vous le retirer.
Non, on ne peut pas me l'enlever parce que je suis hors pair. Je pars... quand je pars nager, je pars au moins 2 heures dans la mer et j'adore ça. Et je peux partir en pleine mer. Et c'est difficile de me... Il faut être un bon nageur pour me suivre.
Et en piscine, à Paris?
Non, je déteste. Je déteste l'eau de la piscine. Voilà, chlorée. Enfin, voilà, c'est... J'aime bien la mer.
Alors, vous avez grandi parmi une fratrie de 6 enfants.
Ouais.
Votre papa est décédé quand vous aviez 2 ans et demi.
3 ans.
3 ans.
3 ans.
Et donc, votre maman a élevé...
seule.
Vous a tous élevé seule en étant institutrice, comme vous l'avez dit. Est-ce qu'il y avait une tradition vestimentaire familiale chez vous?
Alors, il n'y avait aucune tradition vestimentaire, si ce n'est, là je peux en parler longuement.
Oui, que vous avez plein de choses à dire. Ah ben, hein.
Évidemment.
Parce qu'au début, Mireille me dit non, mais je ne sais pas trop.
Bah oui, parce que je ne me suis jamais posé la question, du vêtement en tant que tel. Mais en fait, bien sûr qu'il y a des tas de choses à dire. Donc, lorsque j'étais enfant, il y avait d'abord, ma mère était donc seule, comme vous venez de le dire, avec 6 enfants, un salaire d'institutrice, un père qui est parti tôt, donc vous voyez, elle avait un petit peu d'argent, je pense, qui était reversé, de par la disparition de mon père, mais 3 francs 6
sous. Il était instituteur aussi.
Il était instituteur, mais vous vous rendez compte, il est mort à 39 ans, et puis il a arrêté d'exercer à 27 ans, il est tombé malade. Donc, rien, absolument rien. Maman, on vivait à la campagne, on vivait grâce au fait qu'elle cultivait son jardin, qu'on était à la campagne, qu'on n'avait pas de grands besoins, avec ce sentiment d'ailleurs, je dois vous dire, de ne jamais, alors qu'on était pauvres, en fait, on n'avait pas d'argent quand j'y pense, jamais. Je n'ai eu ce sentiment d'être pauvre. Jamais. Elle s'est débrouillée.
Démerdée, vous pouvez le dire.
Formidablement pour tous ses enfants. Tout ça pour vous dire qu'on a tous fait des études. Il y avait une chose formidable. C'est qu'à l'époque, on était pensionnaires. Il y avait des blouses. Et donc, l'été, on préparait les blouses qui étaient roses, bleues ou couleur bi, enfin beige. Et c'était l'été, voilà, à la maison, ma mère faisait, il y avait des patrons, elle les faisait sur mesure, elle dessinait, vous rendez compte, elle a passé son temps à travailler, ma mère. Elle dessinait, bien sûr, elle faisait les patrons de ces blouses. En plus, on brodait notre nom, il y avait un numéro puisqu'on était interne. Mais ces blouses, elles avaient une vertu extraordinaire. C'était de gommer les différences sociales. Ce qui fait qu'on était tout en blouse et on ne se demandait pas comment était habillée l'autre, si elle portait des vêtements à la mode ou pas. Ce qui fait que moi, j'ai grandi quand même dans avec ces blouses qui étaient formidables pour ne pas se sentir mal à l'aise par rapport à ceux qui avaient de l'argent. Ça, c'est pour l'aspect, j'allais dire, avec les autres, social. À la maison, il y avait une chose merveilleuse qu'elle a faite. Alors, il y avait évidemment la tradition d'avoir les vêtements des aînés. Parce que quand il n'y a pas d'argent, vous prenez quand même les vêtements des aînés. Ça. Mais comme il y avait une grande différence entre les aînés et nous, les petites, il y avait 5 ans et 7 ans. Vous voyez, donc nous, toutes les deux, ma sœur et moi, on avait 18 mois d'écart et on était arrivés bien après les autres. Pour autant, et puis ma mère le faisait pour tout le monde, elle faisait des vêtements pour nous. Et alors là, et moi, ce sont des souvenirs magnifiques. Je vois ma mère après l'école, vous rendez compte, tous les soirs, après son jardin, elle cultivait elle-même son jardin, il y avait la machine à coudre Singer, et elle nous faisait des vêtements sur mesure. Parce qu'en fait, c'est le luxe, maintenant je m'en aperçois. Vous voyez, c'est complètement dingue. On a grandi avec des vêtements sur mesure, puisqu'ils étaient faits par ma mère. Donc elle nous faisait des... Puis moi, elle nous a appris ça à l'école, comme c'était mon institutrice. Elle nous apprenait la couture, les patrons. Et à un moment donné, moi, j'ai fait même mes propres vêtements. Donc elle nous faisait des vêtements sur mesure. On avait nos propres vêtements. Elle avait une machine à tricoter incroyable, où elle faisait des pulls, mais magnifiques. Jacquard avec des petites rayures et tout, ces machines où elle passait la laine elle-même, elle nous faisait ça. Et puis régulièrement, il y avait dans ce village, il y avait un représentant qui passait et qui venait avec des vêtements. Et à chaque fois, ça c'était, ma mère se débrouillait toujours, tout le temps, elle avait toujours un peu d'argent pour nous acheter quelque chose. Et moi, c'est resté, mais tout est resté gravé dans ma mémoire. Vous voyez, c'est ce vêtement qu'elle achetait chaque année pour nous, etc. Non, c'était donc le sentiment vraiment de ne, vous voyez, de ne manquer de rien. Elle m'a fait, et ma première robe, je vais vous dire, oui, j'ai encore une chose à vous dire. La première robe, je me souviens, j'avais, on va dire, de jeune fille, enfin voilà, j'avais 14 ans et je rêvais d'une robe bicolore qui était côté blanc et bleu, un bleu turquoise. Et c'était une petite natte, elle était à manches courtes évidemment, droite, et avec une petite natte torsadée des deux couleurs en haut simplement. Et ma mère m'a fait ça pour un 14 juillet. et j'avais 14 ans, et cette petite robe, je l'ai toujours. Non. Figurez-vous, mais bien sûr. Et ma mère, c'était quand on est parti, on a déménagé, enfin, à chaque fois, elle me disait, tu as gardé ta robe, et c'était, et j'ai gardé cette robe, et je l'ai toujours, je l'ai gardée comme quelque chose d'un porte-bonheur, que j'ai toujours qui.
Vous l'aviez dessinée dans votre imaginaire, cette robe, ou vous l'aviez vue sur quelqu'un?
Je l'avais dessinée. Non, enfin, c'était oui, quelque chose, voilà, je voulais ça, et ma mère me l'a faite, me l'a confectionnée. Donc, en fait, vous voyez, on était pauvres, mais on vivait de façon très luxueuse, puisqu'on avait des vêtements sur mesure. C'est comme ma mère, quand elle me racontait son enfance, où là, c'était, où il y avait vraiment encore beaucoup moins d'argent, et elle me disait qu'à l'époque, elle était italienne, elle vivait en Italie, mais en Italie, elle avait ses chaussures sur mesure, vous vous rendez compte?
Elle allait qu'elle chez gardait, le... j'imagine.
Ah ben oui, bien sûr, mais sa mère, enfin ses parents, l'emmenaient chez le cordonnier à l'époque, quand on n'avait pas d'argent, on se faisait faire des chaussures par le cordonnier qui faisait des chaussures sur mesure. Ce qui est absolument insensé aujourd'hui. Ça vaut une fortune, c'est plus possible. Oui, mais non, mais des choses se sont inversées comme ça, c'est extraordinaire.
Est-ce que votre maman vous a donné des conseils au niveau look qui vous sont restés?
Est-ce qu'elle m'a donné des conseils au niveau look qui me sont restés? Oui, enfin, d'une certaine manière, c'est que je me souviens qu'elle n'aimait pas du tout les vêtements trop moulés. Enfin, c'était quelque chose, parce que bien sûr, elle avait peur, elle trouvait que c'était, surtout à cette époque, les garçons, etc. Vous voyez, ne pas mettre les formes trop en avant. Donc l'idée, c'était quand même d'avoir des jupes droites, vous savez, qui tombent surtout bien droites, mais qui ne marquent pas les fesses, vous voyez, qui ne mettent pas en valeur. Et puis les seins, etc. Et je pense que ça m'a marqué pendant quand même un petit moment qu'il fallait être élégante, mais ne pas être provocante. Voilà. Et puis j'imagine que tout ça a dû peut-être voler en éclats à un moment donné, vous voyez, quand vous avez 18-19 ans. Mais je n'ai pas le souvenir d'avoir eu des vêtements à ce point provoquants, si ce n'est quand même ça encore. Bravo les stylistes, je me suis retrouvée, je crois, deux fois. Et je viens de le revoir dernièrement à la télévision, je vous jure, avec des décolletés, j'en ai encore honte. Et c'est tombé en plus sur une émission qui était quand même très sérieuse. Et la styliste est arrivée, parce qu'à la télévision, en fait, vous ne vous occupez pas vraiment de vos... Quand vous avez des émissions régulières, vous avez une styliste qui vient avec des vêtements, etc. Ce jour-là, elle n'avait rien trouvé, si ce n'est un pull ou un corsage, mais très décolleté, avec vraiment un décolleté. Qui m'arrivait,
jusqu'au nombril.
J'allais dire, oh non, mais au milieu des seins, moi qui n'ai jamais montré les seins à la télévision, et j'ai fait toute une émission absolument incroyable avec ce décolleté et tout, qui d'ailleurs, j'ai reçu une quantité de lettres invraisemblables après cette
des
émission.
Des demandes en mariage?
Alors non, mais il y a eu de tout. Il y avait bien sûr des hommes qui disaient bravo, qui machin, etc. Mais j'avais des femmes qui certaines disaient, ah, c'est bien, je devais avoir 45 ans quand j'ai fait ça, au moins 45 ans, qui me disaient bravo, c'est formidable, etc. Et d'autres qui disaient, alors, Madame Dumas, vous êtes fait opérer des seins, mais ce n'est pas une raison pour les montrer. C'était drôle. Il y a eu des réactions absolument diverses et variées. Et un journal, à la suite de ça, qui évidemment m'a proposé une, comme si en me demandant de reposer avec la poitrine bien exposée, etc. Évidemment, ce que je n'ai pas fait.
Est-ce que cela vous arrive de vous prendre la tête le matin pour vous habiller? Ou alors si vous avez un événement particulier, ou alors
ça m'est arrivé. Oui, bien sûr que ça m'est arrivé de me demander ce qui était le plus approprié. Bien sûr. Je me souviens plus à quel moment, mais ça a pu m'arriver. Sinon, ce n'est pas vraiment une prise de tête. La prise de tête a été beaucoup plus à l'antenne, justement, selon les couleurs. Voyez les couleurs que vous avez.
Pas porter de rayures à l'antenne.
Voilà,
pas de vert.
Pas de rayures. On vous dit de ne pas porter de blanc parce que ça éteint le visage, mais en fait, les années passant, j'ai commencé. J'ai porté pas mal de petites chemises blanches, puis c'était très joli. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a des tas de, on dit qu'on ne porte pas le vert par superstition, vous savez bien, comme au théâtre, enfin voilà, il y a des choses comme ça.
Il y a une autre tradition vestimentaire familiale chez vous qui vient de votre grand-mère.
Évidemment, ma grand-mère, imaginez-vous, était couturière italienne, c'est elle qui faisait tous les vêtements à ma mère. Et c'est elle qui a appris, évidemment, à ma mère comment on faisait les patrons, puisqu'elle nous a fait elle nous faisait ses vêtements sur mesure. Et ma mère disait toujours qu'elle avait eu cette chance extraordinaire, c'est qu'elle, parce qu'elle est allée, ma grand-mère a voulu que ma mère fasse des études. Elle est devenue institutrice à l'époque, quand même.
C'était grimper dans l'échelle sociale.
Bien sûr, puisque le grand-père était maçon, tradition maçon italien, la grand-mère couturière. Et ma grand-mère a voulu, parce qu'ils étaient en Italie à l'époque, ils vivaient en Italie, au lac Majeur, elle voulait que sa fille fasse des études, donc elle l'envoyait dans des lycées. Dans les lycées, il n'y avait que des enfants qui avaient de l'argent, des enfants de bourgeois qui avaient de l'argent ou de grandes familles aristocratiques. Et ma mère a toujours dit, j'étais, parce qu'il n'y avait pas de blouse là, à cette époque-là. Et elle disait toujours...
C'était en Italie.
Oui, en Italie. Et elle disait toujours, je me suis retrouvée, je n'avais rien à envier aux autres, parce que moi, j'avais des vêtements toujours taillés sur mesure, très magnifiques, etc. Et donc, naturellement, elle a appris les patrons, et c'est comme ça qu'elle nous faisait les vêtements. Et quand je pense élégant, je pense à ma mère. Ma mère était une femme d'une élégance absolument incroyable, d'une coquetterie. Moi, je ne suis pas du tout coquette comme elle. Elle était très coquette, ma mère. Elle avait toujours, elle était très mince, très maigre même. Elle avait toujours un joli chignon comme ça, et toujours des vêtements. Alors elle faisait attention aux coordonnées. Elle avait toujours ses petites boucles d'oreilles. Elle était.
C'est l'institutrice, j'imagine, parfaite en classe.
Oui, absolument. Voilà, mais toujours avec une grande élégance. Une grande sobriété et elle avait un truc sur les chaussures, ma mère. Elle avait un nombre incroyable de chaussures. Elle aimait toujours les jolies chaussures.
Quel est le vêtement que vous ne porterez jamais?
Qu'est-ce que je ne porterai jamais? Ben maintenant, je ne porterai plus de mini-jupe, évidemment, et de shorts. Là, j'ai passé, puis je trouve qu'à un moment donné, il y a quand même... voilà. Alors, moi, c'est peut-être ça qui est resté dans ma tête aussi, de ma mère. Je crois qu'il y a des vêtements qu'on ne porte plus à un moment donné, j'en sais rien.
Donc, vous êtes mis des interdits vestimentaires avec l'âge?
Oui, mais c'est même pas des... C'est même pas... Est-ce que c'est avec... Oui, je pense que c'est avec l'âge. Oui, 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 il y a quelque chose... Ouais, oui, oui, oui.
Donc,
ouais,
pour être... même si oui. Vous avez des jolies jambes... non, à 60 ans, on ne met plus de mini-jupe.
Non, non, je crois. Pour moi. Et je crois que quand... Est-ce que... Ouais. Je trouve qu'à un moment... Ouais, je pense que... Enfin, pour moi, et je suis en train de me poser la question, vous voyez, en même temps, en direct, sur une femme d'un... En fait, si je me retrouve sur une plage ou dans un lieu comme ça et femmes de 60, 70 ans sont en short, etc., il n'y a aucun, heureusement, il n'y a aucun problème et tout. Mais je pense que dans certaines circonstances ou dans une, ou en ville ou dans un, je sais pas, je peux me dire que ça manque un petit peu d'élégance. Voilà, peut-être.
Est-ce que le regard des autres vous touche? Si, par exemple, quelqu'un vous dit « Non, mais alors là, j'aime pas du tout être nue. » Il y a toujours des gens indélicats.
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce que vous répondez? Est-ce que ça peut vous remettre en question?
Jamais.
Vous en fichez complètement?
Je m'en fiche complètement.
Vous avez fait de l'antenne aussi, donc j'imagine que...
Oui, je m'en fiche complètement. En revanche, je serais... Vous voyez, j'ai un assistant qui est jeune, vous avez vu, qui a...
Bonjour Corentin.
Qui a 25 ans et tout. J'aime bien son regard de temps en temps, je lui demande son regard sur moi. Ouais, ça j'aime bien. J'aime bien, je pense d'ailleurs c'est lui qui... je portais des pantalons un peu plus larges et il m'a dit « Mais attends, tu es encore mince et tout, vas-y porte des pantalons un peu plus serrés, c'est plus joli pour la silhouette. » Et c'est, vous voyez, j'avais gardé le sentiment de vêtements un peu plus larges et tout et il m'a amené peu à peu aux pantalons plus
serrés. Comme quoi l'inconscient travaille...
Oui, bah, c'est-à-dire, oui, mais c'était... et je lui ai dit « Mais tu trouves pas que c'est un peu ridicule quand même à un moment donné un pantalon aussi serré et tout ?» Et de par son regard de jeune, voilà. En fait, il m'a amené peu à peu à porter des jeans plus, vous voyez, plus serrés.
Est-ce que le fait de vieillir vous fait peur?
Non.
Est-ce que cette pression du jeunisme vous agace?
Oui.
Est-ce que cette course au Botox, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça?
C'est compliqué parce que pour moi, c'est très, vous voyez, c'est très personnel, j'ai envie de vous dire. Je pense que c'est vraiment une affaire personnelle de soi par rapport à soi, aussi par rapport au regard de l'autre, bien sûr. Mais c'est vraiment une question personnelle. Je n'ai pas peur de vieillir sur le, comment dire, si vous me posez la question, comme ça, sur le long terme, parce que j'ai eu la chance d'avoir une mère qui a vieilli, centenaire, qui a vieilli avec toutes ses rides, que je trouvais magnifique, qui était superbe. Donc, c'est rassurant. Après, de se voir vieillir, je trouve que c'est quand même... c'est une épreuve. Enfin, c'est pas drôle. On va pas dire « Ah, c'est super de vieillir ». C'est faux. Quand vous avez 30 ans, 40 ans, voire même 50 ans, tout ça est encore loin. Enfin, même 50 ans, vous commencez à voir quand même il y a des changements. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu une bonne génétique et j'ai eu la chance, à 50 ans, je me posais pas la question. Mais peu à peu, bien sûr, tout se transforme et c'est compliqué. Après, la vision de ma mère est quelque chose qui me porte étonnamment. Et je pense que, alors il y a une autre, il y a aussi vieillir par rapport à soi et vieillir aussi dans le regard de l'autre ou en passant à la télévision. Mmh. Moi, par exemple, je n'ai aucun problème de moi avec moi de tous les jours, enfin, vous voyez, avec mes rides, etc. et tout. En revanche, je n'ai pas forcément envie de me retrouver, voyez, à l'antenne avec toutes mes rides, surtout aujourd'hui où vous êtes, les caméras sont terribles. Je trouve que pour les caméras d'aujourd'hui, elles sont formidables parce que vous avez,
il y a une plus belle lumière.
Enfin, c'est surtout vous avez tous les détails et en même temps c'est épouvantable. Moi, je veux des films de cinéma, les films réalistes de cinéma avec les comédiennes où vous voyez tous les pores de la peau et toutes les imperfections. C'est pareil. Là, c'est extraordinaire. On a passé notre temps. Moi, je me souviens quand j'étais jeune réalisatrice et journaliste. On mettait des bas, on achetait les fameux bas bourgeois très transparents et on tramait les caméras, l'objectif de la caméra, pour que la lumière soit diffuse, pour que les femmes soient plus belles, nos invités, vous voyez. Et aujourd'hui, vous avez, c'est tout le contraire. il faut que ça soit réaliste, réel. Et c'est, de temps en temps, c'est un peu...
C'est pour ça que beaucoup de présentatrices...
C'est un peu compliqué.
On recourt au Botox, j'imagine.
Oui, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Mais c'est surtout, moi je trouve, franchement, le Botox, on s'en aperçoit un petit peu. Bon, si c'est bien fait, je ne sais pas. En revanche, la chirurgie esthétique, je vois très peu de chirurgie esthétique vraiment réussie. C'est ce qui fait pour moi le plus de dégâts quand même. Je comprends. Enfin,
ça change la personne, ça change le visage.
Ça change le visage, oui. Je comprends que certaines, je le comprends vraiment parce que la question se pose pour tout le monde. Mais franchement, c'est
et pas que les actrices, il y a aussi les chanteuses, journalistes, toutes, chanteuses, actrices.
Toutes, voilà. Oui. En général, quand même, ça, le visage se retrouve complètement trop tiré d'un côté. Il y a un œil, la bouche. C'est difficile, mais je le comprends. Moi, d'un coup de baguette magique, on me dirait, voilà, on peut faire une petite chirurgie et puis juste aller te donner une petite bonne mine, t'enlever une dizaine d'années. Je dirais pas non. Vous voyez, je pense que c'est ça. Le problème est que le résultat, à chaque fois, c'est quand même... Enfin, moi, c'est quelque chose que je trouve rarement réussi.
Alors, tout à l'heure, vous parliez des bas bourgeois. Alors, cet épisode est sponsorisé par Dim. Pendant un mois, Dim soutient Chiffon. Qu'est-ce que cette marque vous représente pour vous? Elle vient de fêter ses 60 ans.
Oui, toute ma jeunesse. Je vous ai parlé de bourgeois parce que c'était les bas les plus fins qu'on pouvait, en tout cas à l'époque. Mais moi, je suis partie de la génération Dim, évidemment, les collants. Parce que j'étais toute petite, toute jeune, j'ai connu quand même des petits porte-jartels. J'ai eu un petit porte-jartel Vichy rouge et blanc. Très chic. Bien sûr, on avait des dessous, j'ai connu ça quand même. Après, les porte-jartels noirs, enfin, etc., ou rouges, ça, c'était, je pense pas en avoir porté. Mais en tout cas, j'ai eu des petits porte-jartels comme ça. Moi, je viens de cette génération. Et puis, évidemment, sont arrivés les fameux collants et les collants Dim. C'était une... pour les femmes, en tout cas, c'était une libération absolument extraordinaire. C'est tellement simple d'enfiler des collants. Je sais que c'était que cela ne plaisait pas beaucoup à nos compagnons. Évidemment.
Non, la jante masculine.
La jante masculine, oui, qui est et encore aujourd'hui, c'est resté le grand fantasme, le porte-jartel. Le bustier, le porte-jartel, vous aviez même le petit bustier, vous voyez, qui se finissait avec le petit porte-jartel et tout ça. Enfin bon, maintenant ça semble presque d'un autre monde, d'une autre époque où on se dit voilà, on appelle ça les vêtements coquins maintenant.
Ça a plus une connotation sexuelle. Alors qu'avant c'était
mais pas du tout, mais pratique. Pareil, c'était complètement, c'était comme ça. On n'avait pas d'autres, pas d'autres moyens. Et puis voilà, les collants sont arrivés et ça a été. Merci Brigitte Bardot, parce que je me demande si ce n'est pas elle qui a... Est-ce qu'elle n'a pas participé à
l'émancipation de la femme et
avec, oui,
avec Dim.
Eh oui, avec Dim. Enfin, je ne sais pas, j'ai ça en tête, peut-être pas, mais...
Je leur demanderai.
Oui.
Est-ce que l'accessoire est important pour vous? Un joli sac, de jolies chaussures. Tout à l'heure, vous m'avez parlé du détail sur vos boots.
Oui, bien sûr. Ça peut, je peux ne pas du tout, vous voyez, m'en occuper. Et comme évidemment, tout à coup, je pense qu'un voilà, vous voyez,
collier, vous même, avez un joli.
Voilà, un pendentif ou je n'en porte plus beaucoup, mais une jolie paire de boucles d'oreilles ou une jolie bague. Mais pas tout en même temps.
Donc, j'ai compris que vous aimiez la simplicité.
Oui. Pas, vous voyez, pas tout. Et surtout, pas tout coordonné, pas tout. Voilà.
À quelle fréquence achetez-vous des fringues?
Ou alors beaucoup, comme vous faites vous, là. Voilà, c'est ça, je vois. Non, mais ou alors c'est une superposition parce que c'est rigolo.
Voilà, c'est plus. Pour moi, c'est la fantaisie.
C'est la fantaisie, c'est le fun. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est vraiment de la fantaisie et ça, moi aussi, je.
Il n'y a rien de.
Je peux le faire, mais pas, vous voyez, pas.
Total look bling.
Oui, non, pas possible.
Alors, je repose la question. À quelle fréquence achetez-vous des fringues?
Ça, je n'en sais rien.
Votre dernier achat, c'était quoi?
Mon dernier achat.
Fringues.
Fringues, une paire de boots.
Les fameuses?
Non, d'autres. Voilà.
Ah, vous aimez les chaussures?
Ouais, j'aime bien. J'aime bien, ouais.
Plutôt à plat ou talons?
Là, c'était des talons. C'est des talons qui étaient décalés. Elles sont très jolies. Mais non, en fait, je vais très peu souvent m'acheter des vêtements. Et quand j'y vais, non, c'est plus par... Vous voyez, j'y vais et je vais m'acheter deux paires, trois paires de chaussures, mais ça va être fini pour plusieurs mois. Vous voyez, je vais le faire... Non, je déteste traîner dans les magasins, aller essayer des vêtements, des chaussures, tout ça. Ça m'ennuie énormément. Donc, j'y vais, je prends et puis après on ne me voit plus pendant un certain temps.
Vous êtes fâchée avec la cabine d'essayage?
Oui, je déteste, mais quelle horreur ce truc. Alors, mais pareil, vous voyez, pour les sous-vêtements, pour tout, j'y vais, je prends, je me dis, allez, je prends 2 heures, 3 heures s'il le faut, c'est un supplice. La cabine d'essayage, pour moi, est un supplice. Vous êtes là, vous décoiffez, vous enfilez, vous ressortez, c'est insupportable.
Vous transpirez,
tout ça, vous dites, en plus, vous essayez des fringues, vous dites, tout le monde les a essayés, enfin, c'est, en fait, il y a quelque chose d'assez...
Un peu cracra.
Un peu cracra, oui.
Quels sont vos spots fringues? Justement, quand vous dites « Ah ouais, là, j'ai envie de me faire une razzia de chaussures ou un jean ou deux pulls », est-ce que vous avez des boutiques précises? Des marques? Vous pouvez citer les marques. Hein, y a pas de...
On peut citer les marques,
bien sûr.
Mais est-ce que j'ai...
Ou alors, c'est en passant dans la rue.
Oui, ça peut être en passant. Oui, non, ça peut être en passant. Ça peut être dans un grand. J'ai simplifié les choses maintenant pour ne pas courir dans tous les magasins. Pendant très longtemps, j'ai été chez. Mais il y a une vingtaine d'années, j'ai acheté chez Kenzo des fringues, absolument des vêtements magnifiques que j'ai toujours. Qui sont.
C'est intemporel.
C'est intemporel. Oui, mais voilà. Mais maintenant, ils ont changé. C'est beaucoup plus jeune. Mais des vêtements vraiment intemporels.
Pourquoi vous dites que c'est plus jeune?
Oui, parce que les vêtements qu'ils faisaient étaient des vêtements, je vois, qui n'étaient pas des vêtements mode. Ils ont, c'était très. Et là, je les trouve beaucoup plus dans la mode et plus pour assez jeunes. Voilà, c'est quelque chose qui a. Moi, j'ai des vêtements qui ont traversé le. Je vois un manteau, des vestes qui ont traversé comme ça les années.
Qui était absolument avec des couleurs, des coupes absolument incroyables. Il y a Mugler m'a offert des vestes absolument sublimes.
Très épaulées, j'imagine.
Très épaulées, mais alors avec la taille, vous savez, très
serrée.
Très serrée. Moi, j'avais une petite la taille fine, donc c'était joli. Et j'ai des vestes comme ça que j'ai gardées de lui qui sont absolument sublimes. J'ai eu la chance d'avoir comme ça quelques créateurs qui m'ont offert des vestes. Aujourd'hui, les vestes de cuir, j'oublie de citer quand même.
Ça, on l'avait noté déjà.
Ouais. Jean-Claude J3. Non, j'en ai acheté énormément chez lui, mais chez d'autres aussi, dont j'ai oublié d'ailleurs un petit peu le nom. Ça va me revenir. Voilà. Et puis après, moi, je sais pas, il y a des marques, j'achète parfois du Max Mara, parfois, je n'ai pas une marque précise maintenant, c'est en fonction
de... papillonner, en fait.
Ouais, je papillonne, et puis tout n'est pas de la marque. Enfin,
est-ce que vous pourriez rentrer chez Zara ou H&M?
Bien sûr, j'y vais régulièrement. Oui, aussi, parce que je trouve que c'est bien sûr. C'est moi quand je vous donne ces marques-là, parce que ça a été, c'est une quand vous voulez quelque chose de précis ou de coupé comme ça et tout. Voilà, c'est bien d'avoir une jolie veste. Mais sinon, franchement, moi les jeans que je porte, c'est à la boutique du coin. Les pulls aussi. Enfin voilà, c'est bien sûr. Enfin puis tout est. Je prends beaucoup aussi dans mes voyages quand je voyage. Vous voyez, je passe dans quand j'ai un peu de temps. En fait, c'est quand j'ai un peu de temps, je suis en voyage ou en vacances, pouf, dans les boutiques, voilà, j'attrape ce que j'ai sous la main.
Que faites-vous des vêtements que vous ne portez plus? J'ai l'impression que vous les gardez. Est-ce que vous jetez certains?
Non. Alors, il y a vraiment un mix de ceux que je ne porte plus. Alors, certains, c'est vrai. Il y a de très belles vestes que j'ai gardées. D'autres que j'ai données à ma nièce. D'autres qui partent chez Emmaüs. Qu'est-ce que j'en fais? C'est tout. C'est déjà pas mal, oui.
Quelle est votre définition de l'élégance?
Ma définition de l'élégance.
C'est la question chiffon.
Ah, la question chiffon. L'élégance, c'est, je pense que c'est l'adéquation entre la personnalité et le vêtement.
C'est-à-dire?
Je crois que c'est quelqu'un qui est parfaitement bien dans son corps et dans sa tête avec le vêtement. C'est une espèce de comme ça d'adéquation naturelle, je dirais. Et puis l'élégance, ça va être ça va être la simplicité pour moi. C'est l'élégance. Si je devais d'ailleurs faire un dessin, vous voyez, ça sera un trait tout simple comme ça, pouf, quelque chose de très sobre, simple, évident. Ce serait ça l'élégance, sans fioriture, quelque chose d'épuré. En fait, ça va être ça l'élégance.
Est-ce que ça vous arrive de vous arrêter dans la rue, de vous dire waouh, cette femme est élégante? De croiser quelqu'un, un homme?
Non, mais enfin, peut-être. L'élégance, je suis en train de. Mais c'est tout un ensemble. Enfin, quand je dis que quelqu'un est élégant, en général, j'essaie de vous répondre. Ça va avec le port de tête. Je pense qu'il y a quelque chose dans le port de tête, dans le physique, dans le vêtement, voilà, qui tombe parfaitement, qui est. Et en général, c'est assez simple. Quand je dis élégance, ça va être quelque chose comme ça, de très simple, de. Certainement, est-ce que le vêtement est bien taillé? Peut-être, pas forcément, mais il va parfaitement à cette personne.
Et
je pense à la silhouette, et je pense qu'il y a quelque chose, oui, dans l'élégance va avec un port de tête, une gestuelle, une façon de, peut-être, de marcher, de se tenir, et dans la simplicité, la sobriété. Voilà.
Alors, le présentateur de télé avec sa cravate trop serrée était-il élégant?
Est-ce qu'il était élégant? Oui, il était élégant. D'ailleurs, il était élégant, mais il était coincé.
Alors, pour terminer, chiffon, je fais un petit questionnaire. Oui. Et il faut une réponse.
Oh là 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 là.
Si vous étiez une couleur. Une couleur. Votre couleur préférée.
Ma couleur préférée, je suis obligée de dire noir.
Là, vous êtes tout en noir.
Noir.
Si vous étiez une forme de pantalon.
Jean.
Une chaussure.
Boots.
Une matière.
Cuir.
Un bijou.
Bague.
Un parfum.
Je suis obligée de dire ce que je porte ou...
Ce que vous aimez.
Ah, ce que j'aime.
Si j'étais un parfum. Effectivement, les gens, souvent, me donnent leur parfum.
Oui.
Mais pas forcément. Ça peut être le parfum de quelqu'un que vous aimez ou...
Alors, j'ai droit de réponse.
Bon, allez, exceptionnellement. Allez,
Chanel numéro 5 pour moi. Et sinon, parce que je pense à ma maman qui n'est plus de ce monde, c'était la violette de Parme.
Si vous étiez un pull.
Pull col V. Ou col.
J'adore.
Ou bateau très large, très. Voilà. Un pull dans lequel on
qui
se sent bien.
Une épaule.
Ou qui laisse une épaule. Sortie. Ça, c'est très joli. Ouais.
Si vous étiez un sous-vêtement.
Un sous-vêtement. Si j'étais un sous-vêtement. Le porte-jartel quand même.
En Vichy rouge.
Pas en Vichy rouge, là. Non, mais le porte-jartel, ouais.
Si vous étiez une créatrice ou un créateur.
Si j'étais un créatrice...
Tout à l'heure, vous m'avez parlé de Mugler.
Ou oui, Mugler. J'ai porté Chantal 3. Thomas aussi à l'époque. Oui. À l'époque où elle faisait des jolies choses aussi. Et puis, de toute façon, je n'ai cité personne, là, mais il y a tellement, tellement de créateurs. Et de jeunes créateurs aussi. Si j'étais un créateur, est-ce que je vais peut-être rendre hommage à celui qui vient de nous quitter ?
Karl Lagerfeld.
Oui, peut-être. Peut-être à Karl.
Qu'est-ce que vous aimiez chez lui ?
Oh, cette espèce de folie, d'exubérance, de personnage en même temps absolument génial. Mais je pense à lui parce qu'il m'avait demandé de faire son... C'est, je crois, le seul qui m'ait demandé de lui faire son portrait. J'ai fait un papier sur lui en presse écrite, mais c'est lui qui m'a demandé de le faire. Dans les milieux des années 90, j'ai fait tout un portrait de...
Pour quel magazine ?
Je suis en train de chercher... C'est pour un féminin. Est-ce que c'est pour elle ou... Je ne me souviens plus.
Imaginez la consécration quand même.
Oui. C'était au milieu des années 90. Il m'a commandé un... Bien sûr. Et il m'a demandé de faire son portrait. J'ai vu, là, d'ailleurs... Mais il était... Il aimait la façon dont je travaillais et donc il m'avait demandé de lui faire ce portrait en presse écrite et je l'ai invité ensuite, par la suite, beaucoup plus tard à la télévision.
Et comment vous aviez réagi quand vous avez eu cette demande ? Ça doit être hyper flatteur.
Oui. Ben, ça m'avait. C'est-à-dire qu'à l'époque, je me souviens, je me disais, mais comment je vais faire ? Parce que c'était les années Balai-Masque où je travaillais énormément. Ça devait être la dernière année de Balai-Masque. Et finalement, je suis allée le voir. Il m'avait parlé. C'est très, très ancien, vous voyez, de toutes ces maisons, de sa relation aussi à ses maisons, vêtements, etc. Et j'avais fait cet article sur lui. Donc, évidemment que j'avais trouvé ça très... mais je ne suis pas certaine que je me sois vraiment rendu compte de ce qu'il me demandait, vous voyez. J'étais dans mes émissions, etc. Donc, mais je l'ai fait, évidemment.
Et la dernière question, si vous étiez une héroïne actuelle, passée, de film, inconnue.
Si j'étais une héroïne... C'est une question, mais alors très, très, très compliquée. Une héroïne... je crois que je serais Mère Teresa, quand même. C'est une grande bonne femme, Mère Teresa. Voilà, et j'ai oublié Montana. Citer Montana à l'époque aussi, en créateur. Excusez-moi d'y revenir, mais parce que Montana, pareil, faisait des vêtements absolument magnifiques. Je parle d'il y a quelques années.
Merci infiniment, Mireille.
C'est moi qui vous remercie.
Je tiens à remercier aussi les partenaires de cet épisode, Dim, ainsi que le magazine Grazia. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues et portez-vous bien.
Au revoir.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.